Mémoire de Thomas Cam, ministre de l'Évangile de Camskill dans le Westmoreland. Thomas Cam, époux d'Anne Cam, naquit à Camskill dans le Westmoreland en l'année 1641. Ses parents étaient tous deux membres de la Société religieuse des Amis, distingués par leur piété, leur intégrité et leur sollicitude chrétienne pour leurs enfants. Outre l'avantage de leurs conseils et d'être instruits dans les principes religieux de ses parents, la circonspection de leur exemple fit une impression durable sur son esprit de jeunesse. Par ses moyens et par les visitations de la grâce divine, il fut imprégné de sentiments religieux dès l'enfance et prit plaisir à la compagnie des personnes les plus sérieuses, recherchant ardemment le ciel et les choses célestes. En grandissant, son intelligence fut divinement éclairée pour comprendre que, si grande que fût la bénédiction d'une éducation vigilante dans de saints principes religieux, elle ne servirait de rien si le cœur n'était régénéré et sanctifié par l'action du Saint-Esprit. Ainsi visité par miséricorde, il ne jugea rien trop précieux pour s'en défaire, mais prit joyeusement sa croix et suivit son Maître divin. Il était souvent porté au recueillement et à une attente respectueuse devant le Seigneur afin de connaître sa volonté, et ayant enduré les baptêmes nécessaires, il fit enfin l'expérience de cette purification du cœur que son âme désirait ardemment. Ayant constaté les fruits bénis de l'obéissance à l'Esprit du Christ, il fut appelé à témoigner aux autres de ce que Dieu avait fait pour son âme. Le Seigneur qui l'appela à l'œuvre du ministère l'y rendit apte, le revêtant de sagesse et de discernement céleste pour répartir la parole de vie selon l'état de ceux parmi lesquels il travaillait. Sa doctrine était saine, non dispensée dans les paroles séduisantes que la sagesse humaine enseigne, mais avec l'autorité d'une puissance céleste, par laquelle il fut rendu instrument pour éveiller et amener beaucoup dans le chemin de la justice. Il se donna librement au service du Seigneur, voyageant largement pour proclamer la bonne nouvelle du salut et appeler les gens à quitter leur dépendance des observances extérieures pour se tourner vers la puissance du changement du cœur, l'Esprit du Christ en eux-mêmes. Il eut aussi sa part de souffrance par des emprisonnements, la confiscation de ses biens, des moqueries et des sarcasmes de la part des impies, ainsi que l'infidélité et les outrages de faux frères, qu'il supporta avec douceur et patience. En l'année 1674, il fut poursuivi pour de petites dîmes et offrandes par John Ormerod, le prêtre de Burton, et par un bref obtenu à cet effet, il fut emprisonné à Candal. Là, il fut retenu en étroite détention pendant près de 3 ans, puis il fut de nouveau jeté dans la prison du comté à Appleby, où il resta 6 ans. En 1678, après l'entrée en vigueur du dernier acte contre les conventicules, un juge de paix envoya des indicateurs à une réunion d'amis tenue à Aconthwaite et sur leur déposition, condamna plusieurs personnes, sans les faire citer devant lui ni examiner l'affaire. Il délivra aussitôt des mandats de saisie contre eux, sans les voir ni les entendre, et envoya les officiers lever sur leurs biens. En vertu de cette procédure illégale et injuste, 9 têtes de bétail et 55 moutons furent pris à Thomas Cam pour avoir prêché à la réunion. Lorsque les officiers se plaignirent au juge qu'ils ne pouvaient vendre une partie du bétail, beaucoup de personnes ne voulant pas acheter ce qui avait été obtenu si malhonnêtement, il leur ordonna de vendre à n'importe quel prix ils pourraient obtenir et de saisir davantage à Thomas pour combler le manque, leur disant que, s'ils ne levaient pas sur lui la totalité de l'amende, ils la paieraient de leur propre denier. Peu après, une autre saisie fut pratiquée sur ses biens, par mandat du même juge, prétendument pour les amendes d'un prédicateur à l'une de leurs réunions, lequel était déclaré dans le mandat avoir fui le comté et dont la résidence était inconnue. Or, loin que cela fût vrai, Thomas Dowcra, le prédicateur en question, se rendit à la maison du juge après la réunion et y laissa son nom, avec l'indication qu'il habitait à Swarthmore, près d'Ulverston, dans le Lancashire, qu'il était en mesure de souffrir pour sa propre amende et désirait donc qu'elle ne fût pas imposée à d'autres. Mais le juge Wilson et ses aides, sans égard pour cela, choisirent de chercher leur profit auprès de quelqu'un de plus proche et sur qui ils pouvaient plus commodément extorquer leurs exigences injustes. Ces souffrances, si oppressives et illégales qu'elles fussent, Thomas Cam les endura avec courage et patience. Au lieu de reculer, dans l'accomplissement de son devoir à cause de ces épreuves, il maintint noblement sa position, se réjouissant d'avoir été jugé digne non seulement de croire en Christ, mais aussi de souffrir pour son nom. Il était très qualifié pour administrer la discipline de l'Église, étant lui-même un bon exemple par sa conduite et sa conversation, et ferve dans ses travaux pour promouvoir parmi les amis un comportement conforme à leur haute profession. Animé d'un zèle bien tempéré et pieux, il s'opposa fermement à cet esprit crêleur qui cherchait à ravager la tendre sollicitude des amis, les uns envers les autres, et à fomenter la discorde et les divisions dans l'Église. Pourtant, avec la douceur de la sagesse, tel un père affectueux, Il encourageait les craintifs, fortifiait les faibles et consolait ceux qui pleurent, se montrant un fidèle dispensateur de la grâce multiforme de Dieu. Homme de paix, il s'employa à la promouvoir parmi des hommes de tous rangs et de toutes classes, et sa disposition bienveillante et douce lui gagna le respect des vertueux partout où il était connu. Lorsqu'il fut très avancé en âge et affligé des infirmités consécutives à la vieillesse, ainsi qu'aux souffrances et privations qu'il avait endurées, son zèle pour la religion et son amour sincère pour les frères ne diminuèrent pas, mais il entreprit des visites répétées dans diverses parties de la nation. Le dernier voyage de ce genre qu'il fit fut dans le Lancashire, le Yorkshire et à travers son comté natal du Westmoreland. Il en revint le 17 du 11e mois, 1707, à la demeure de son gendre John Moore à Aldworth. Peu après être arrivé en ce lieu, il eut une rechute d'un trouble auquel il était sujet depuis des années, et la douleur étant violente, il ne pouvait prendre que très peu de nourriture ni obtenir de sommeil naturel, dont le manque diminua rapidement ses forces. Il fut toutefois favorisé d'une résignation, et dans la perspective d'une glorieuse immortalité, il pouvait dire avec joie « Pour moi, vivre c'est Christ et mourir est un gain ». Il remarquait souvent « Je ne désire ni vivre ni mourir, mais je suis bien content, quoi qu'il plaise au Seigneur d'en ordonner. Si le Seigneur le juge bon et a encore quelques services à me faire rendre, il lui est aisé de me relever, mais que sa volonté soit faite, je suis très content, je bénis le Seigneur. » À mesure qu'il approchait de la fin de la vie, le souvenir de ses travaux et souffrances passées pour la cause de son Maître divin lui apportait du réconfort. « J'ai une grande paix et satisfaction, dit-il un jour, en ce que j'ai fait la volonté de Dieu. Je ne sais pas que j'ai beaucoup plus à faire, l'heure de mon départ semble approcher, et j'en suis satisfait. Je bénis le Seigneur de pouvoir dire avec l'apôtre, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi désormais mais réservé la couronne de justice que le Seigneur, le juste juge, me donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui aiment son avènement. » Un jour, étant assis seul dans sa chambre, son gendre entra et demanda comment il se sentait. Il répondit « Je suis faible de corps, mais fort dans l'homme intérieur, béni soit le Seigneur, qui a été jusqu'ici mon soutien et ma force. » Peu après, il poursuivit « J'ai réfléchi en mon esprit et médité sur les miséricordes indicibles et les bontés aimantes de Dieu, étendues sur moi toute ma vie jusqu'à ce jour même. Merveilleux, en vérité, qu'une pauvre créature faible telle que moi s'est pu être rendue capable de tenir bon à travers les nombreuses épreuves, les voyages et les souffrances, tant intérieures qu'extérieures, qui m'ont été départies. Cela a été en effet l'œuvre du Seigneur, qui est et a toujours été mon bouclier et mon écu. À lui appartiendront la louange et la gloire de tout, car lui seul en est digne, pour toujours et à jamais. » Comme il marchait un soir dans sa chambre, s'appuyant au bras de son gendre, il sentit ses membres trembler sous lui du fait d'une faiblesse accrue. Il remarqua alors, « Cher John, lorsque les piliers de la maison commencent à trembler, c'est alors une réelle faiblesse. Mais bien ressent ceux qui, lorsque ce tabernacle terrestre est prêt à se dissoudre, savent assurément qu'ils ont une demeure éternelle dans les cieux, dont le bâtisseur est le Créateur et le Seigneur, ce dont pour ma part je bénis le Seigneur, je suis pleinement satisfait. » Environ une semaine avant son décès, plusieurs de ses petits-enfants étant dans la pièce avec lui, il leur dit « Je pense que je dois maintenant vous quitter. Si le Seigneur avait jugé bon de me laisser un peu plus longtemps, j'aurais pu vous être utile par mes conseils et avis. Mais le Seigneur, le grand et sage conseiller, ne vous fera pas défaut en conseil, pourvu que vous ayez les yeux fixés sur lui par-dessus toute chose. Je vous aime de tout mon cœur, et que la bénédiction du Seigneur repose sur vous, si telle est sa volonté. » Une autre fois, il dit « La foi et la patience, l'espérance et la charité sont d'excellentes vertus, que le Seigneur en revête ses enfants de plus en plus. Sa faiblesse étant telle qu'il devenait difficile d'enfiler ou d'ôter ses vêtements, il dit à ceux qui l'aidaient « Chers enfants, vous avez beaucoup de peine à mon sujet, que le Seigneur soit votre récompense. Vous verrez qu'un peu de temps mettra fin à toutes ces peines, et ce sera pour moi une heureuse fin, je n'en doute point du tout. » Sa petite fille aînée se tenant près de lui, il lui prit la main et dit « Chère Anna, le Seigneur te récompensera pour tes soins et tes peines à mon égard. » Voyant qu'elle était très émue à la perspective de perdre un parent si proche et si cher, il poursuivit « La mort ne sera pas refusée mais tout ira bien pour moi, l'ennemi ne peut me toucher. Le Seigneur qui a été avec moi et a soutenu mon esprit à travers et au-dessus de tous les divers exercices et épreuves de mon temps sera avec moi jusqu'à la fin, il n'y a aucun doute. » La tranquillité et la joie céleste qu'il lui fut permis de ressentir l'amenait parfois à éclater en louanges et actions de grâce au très haut, son cœur paraissant rempli de mélodies. Une fois, il dit, « J'ai servi le Seigneur avec sincérité de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma force. Alléluia, alléluia, alléluia à son nom. Et il continua ainsi à magnifier le Seigneur, au point d'attendrir ceux qui étaient présents. Ensuite, il appela son gendre et quelques autres personnes présentes, disant « Rendez-moi ce témoignage, que je meure dans une parfaite unité avec les frères. Mon amour est aussi ferme et vrai que jamais, dans notre Seigneur Jésus-Christ, l'auteur de notre salut. » Quand on lui demandait comment il allait, il répondait « Faible de corps, mais fort dans le Seigneur, dans le sein d'Abraham, il y a un doux repos. » 2 jours avant sa mort, paraissant très défaillant, on lui donna un peu de vin, comme cordial pour ranimer ses forces déclinantes. Mais son estomac ne le retenait pas. Alors il dit gaiement à son gendre, « Vous voyez que ces choses ne conviennent pas. Mais une coupe de vin nouveau dans le royaume céleste avec mon cher et bienheureux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ compensera tout. » Sa fin étant maintenant manifestement très proche, il dit, « J'espère que le Seigneur, qui a été mon secours dans bien des détresses et difficultés, m'aidera aussi maintenant. » Prenant l'un de ses petits-enfants sur ses genoux, il l'embrassa et la baisa affectueusement, disant, « Que Dieu Tout-Puissant te bénisse, que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob te bénisse et te rende heureux, si telle est sa volonté. » Après cela, il se coucha et demeura dans un état d'esprit très calme et doux. Puis, en laissant son souffle se raccourcir doucement, sans lutte ni trouble, son esprit racheté partit vers les demeures de gloire et de béatitude éternelle, le 13 du premier mois, 1707-8. Il était dans la 67e année de son âge. Le 16 du même mois, ses restes furent inhumés dans le cimetière des Amis à Porkend, Preston Patrick, près de Camskill, accompagnés par une grande foule de personnes de plusieurs comtés voisins, qui s'assemblèrent à cette occasion, avec des marques évidentes de tristesse pour la perte d'un homme si digne et si utile. Fin. Le but de ce site web est de montrer comment être affranchi du péché en bénéficiant de la puissance transformatrice de Dieu par la croix, qui conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.